C'était le 7 octobre 2025 à Pau, dans le cadre de l'école de prière de la formation permanente du Béarn, qu'était invité le père Michel Leclerc pour intervenir sur la vie de saint Augustin. Les trois conversions de saint Augustin, une conférence du père Michel Leclerc, c'est tout de suite.
Alors je vais donc aujourd'hui essayer de situer la figure de saint Augustin. Donc déjà de vous raconter son histoire, mais de l'histoire de saint Augustin, c'est pas seulement une histoire à côté de ce qu'il a dit, notamment de sa doctrine spirituelle, parce qu'en fait il a vécu ce qu'il a enseigné. Son histoire et son enseignement sont vraiment imbriqués dans une unité qui est assez surprenante. Et la première chose à voir quand on regarde la vie de saint Augustin, c'est le moment où il naît et le lieu où il naît. Donc il naît en Afrique. Il naît à la limite entre l'Algérie et la Tunisie actuelle. Il naît donc à Tagaste. Et il faut se rendre compte de ce que c'est que l'Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique, c'est-à-dire la province romaine africaine, en l'an 354, l'année de naissance d'Augustin. Donc en 354, Augustin naît et on est au moment où il y a les grandes invasions. 20 ans plus tard, les Huns pousseront les autres peuplades qui arrivent d'Asie. Hein, si vous avez lu Astérix, vous savez ça. Voilà, donc... l'arrivée des Huns, les Huns passent la Volga en 374, exactement. Et donc en 354, Augustin naît à Tagaste. L'Afrique, ce que les Romains appellent l'Afrique, cette bande côtière le long de la Méditerranée, c'est un peu l'équivalent de Saint-Tropez. C'est l'endroit où il fait bon vivre pour un Romain riche. C'est l'endroit où... d'abord, c'est une région... Nous, on imagine le désert, on imagine les chameaux. À l'époque, c'est ce qu'on appelle le grenier à blé de l'Afrique. C'est les plus belles terres à blé de tout l'Empire romain. Saint Augustin nous a décrit ses voyages et il nous dit qu'il traverse ce qui est actuellement le Maghreb, à l'ombre des arbres. Donc les routes sont bordées d'arbres. On n'a pas idée... Donc il y a eu un vrai changement climatique et civilisationnel, puisqu'on était à l'époque dans une civilisation d'agriculteurs, et puis quand il y aura après l'invasion par les peuples arabes, les peuples arabes sont des peuples d'éleveurs, et donc ne travaillent pas du tout le paysage de la même manière. Et donc Augustin naît en Afrique, on peut dire dans une province bénie, ensoleillée, joyeuse, dynamique. On va le voir faire ses études de droit et de rhétorique à Carthage. Alors Carthage, c'est la Tunisie, c'est en Tunisie actuelle. Grosso modo, on peut dire à Tunis, pour faire court. Mais à Carthage, il y a des universités. Alors ce n'est pas des universités telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est une multitude de professeurs. C'est une ville étudiante. Il faut imaginer Toulouse. Toulouse, on dit qu'aujourd'hui, à peu près un quart de la ville est constituée par des étudiants. Ben, c'est à peu près la même chose à Carthage à l'époque. Donc une ville très très jeune, très dynamique, où il y a plein d'idées qui circulent. Et où, comme dans toute ville étudiante, il y a du chahut, il y a du monde, il y a de la fête. Donc voilà le paysage dans lequel saint Augustin naît en 354. Ce paysage a un arrière-fond. C'est que les villes sont riches en Afrique, dans cette province africaine, mais les campagnes sont très pauvres et elles sont peuplées non pas de Romains ou de Berbères romanisés, comme est saint Augustin probablement. Saint Augustin est un mélange entre un Romain et un Berbère. On voit, alors il ne parle pas le punique, la langue berbère, il en connaît quelques mots, donc on pense que son père devait le parler, mais lui n'a pas vraiment appris à parler en punique, il a appris à parler en latin, le romain de l'époque, le latin de l'époque, ce latin qui n'est pas le latin de Cicéron, qui est le latin du début de l'ère chrétienne, qui est un latin que les professeurs de latin vous diront décadent par rapport à la langue pure de Cicéron, mais qui est quand même un beau latin. Quand on lit saint Augustin, On voit qu'il a une belle langue. Mais donc les campagnes sont peuplées par ceux qu'on appelle les Puniques, les paysans, les Berbères, qui eux vivent très pauvres et à part de la civilisation romaine. Donc dans les villes, quand on retrouve les restes archéologiques de l'époque de Saint-Augustin, dans les villes, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la même chose qu'à Rome. Des temples à colonnes, des amphithéâtres, des arènes, on trouve des forums, on trouve des basiliques, les basiliques au sens païen, c'est-à-dire des lieux à la fois où on rend la justice, où on fait du commerce, où on fait de la politique. On est exactement comme à Rome. Le forum de Tagaste, le forum de Carthage, c'est le forum de Rome en petit. Voilà, c'est la même chose. Donc on a du mal, nous, à se représenter ça, que l'Afrique du Nord, c'est Rome, dans les villes. Dès qu'on quitte la ville, c'est la campagne, et la campagne qui n'a pas été romanisée, qui parle une autre langue, qui a même une autre religion. Donc voilà, une situation de civilisation donc assez complexe. En 354, Augustin naît dans une famille de toute petite bourgeoisie. On ne peut pas dire qu'ils sont pauvres, parce que c'est une famille urbaine. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont riches. On voit qu'il y a des gens riches dans la famille, puisqu'il y a un oncle qui paiera les études. Vous savez, c'est l'oncle fortuné, le cousin fortuné, comme il y a souvent dans les familles, qu'on appelle au secours quand la bourse est vide. Donc on voit qu'il est là et que quand il faut, il passe à la caisse. Mais les parents d'Augustin sont tout juste des petits bourgeois. Il y a une servante, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas pauvres. Mais le père va mourir assez vite. Et bon, voilà, ce ne sont pas des gens non plus qui roulent sur l'or. Au point de vue, pour se donner les grands repères, Augustin arrive au moment, il va vivre ce moment de la chute de l'Empire romain. Il arrive à ce moment où un empire millénaire est en train de s'effondrer, alors que, apparemment, tout est fait pour qu'il tienne debout. De nombreuses crises politiques. Alors, à côté, nos journées actuelles, c'est le quotidien de cette époque, sauf qu'à l'époque, les empereurs tombent, sont remplacés par un empereur élu par les soldats, et ainsi de suite. Donc, l'Empire romain est encore debout, il est encore vivant, il est encore glorieux, mais il est en train de s'effondrer, notamment sous le coup des invasions. Des invasions de ceux qu'on appelle les barbares. Vous vous souvenez que la prise de Rome par les Visigoths, c'est 410. Augustin a donc 56 ans. Donc il lui reste 20 ans à vivre. La prise de Rome par les barbares, c'est les deux tiers de sa vie. Voilà. Donc il vit cette époque, et ça le marquera beaucoup, une crise de civilisation. Et donc on dit que pendant que Saint-Augustin vit, l'Occident s'effondre, mais lui, par sa vie et par son œuvre, va donner naissance à un nouvel homme occidental. C'est un auteur classique qui a dit ça, Augustin est le père de l'homme occidental, parce qu'il a posé les bases intellectuelles, philosophiques, théologiques, spirituelles, de ce que sera le nouvel homme occidental, l'homme occidental chrétien, mais aussi l'homme occidental actuel. Vous savez que, par exemple, on dit que c'est le premier à avoir écrit à la première personne dans les confessions, à avoir raconté son histoire. Et donc, c'était une nouveauté de considérer que ce que vivait quelqu'un, personnellement, puisse être intéressant. Nous, ça nous paraît une évidence. Vous voyez, on va acheter les mémoires de Macron, de Chateaubriand, c'est peut-être plus intéressant. Voilà, c'est mieux écrit. Voilà. Mais quelqu'un qui dit « voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai senti », ça nous paraît une évidence. Ça n'avait jamais été fait dans l'histoire, parce qu'on s'intéressait non pas à la personne, mais aux événements. Et Augustin, sous l'influence du christianisme, va comprendre que dans l'histoire d'une personne, c'est l'histoire de Dieu qui se joue. Et donc il va dire, écrire à la première personne, dire ce que je vis, ce que je ressens, l'histoire de mon âme. Hein, ça donnera l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse. L'histoire d'une âme de Sainte Thérèse, c'est les confessions de Sainte Thérèse. Il a fallu que quelqu'un, sous l'influence de la révélation chrétienne, se dise, ce qui se passe dans une âme, c'est au moins aussi intéressant que ce qui se passe dans les empires et dans les batailles et dans les soldats, etc. Donc là, il y a une vraie révolution qui se joue avec Saint Augustin. Alors, je vous raconte sa vie quand même. Donc Augustin naît en 354. Très vite, on voit que c'est un garçon qui a des talents. Il avait, semble-t-il, une mémoire phénoménale. On considère qu'il n'a jamais eu aucun problème pour apprendre. Quand il prêchera, quand il sera évêque, il prêchera parfois une heure et demie, devant des fidèles qui sont debout. Il n'y a pas de chaise à l'époque dans les églises. D'ailleurs, de temps en temps, dans le sermon, il leur dit « Allez, courage, je ne suis qu'à deux tiers de mon sermon. » Et d'ailleurs, le peuple intervient. De temps en temps, ils protestent ou ils applaudissent. Enfin, c'est beaucoup plus... C'est très vivant. On est en Afrique, quand même. Hein. C'est très latin. Mais tous ces sermons, il les connaît par cœur. Il est capable d'apprendre un discours d'une heure et demie par cœur, sans aucun problème. Il connaît l'écriture par cœur. Hein, donc, on est à une époque orale, où l'écrit est compliqué, puisque l'écrit, ce sont des parchemins, ce sont des papyrus. Et donc, une lettre, à l'époque, c'est un événement. Alors, on voit saint Augustin écrire des lettres, on en a encore un certain nombre. Et ces lettres, elles voyagent. Mais ces lettres, on les confie à quelqu'un qui fait le voyage à pied ou à cheval. Donc ça met parfois des mois, surtout une lettre qui doit traverser la Méditerranée. Elle arrive ou elle n'arrive pas. Alors, on a en particulier les lettres entre saint Augustin et saint Jérôme, où d'ailleurs saint Jérôme copieusement insulte saint Augustin. Il le traite de concombre de cloître. Parce qu'il y a eu des incompréhensions entre eux. Mais généralement, avant que la lettre arrive, le contenu de la lettre s'est répandu par la rumeur populaire. Et donc, vous voyez, l'oral va plus vite que l'écrit. Et les œuvres de saint Augustin sont à la fois des œuvres écrites et des œuvres orales, comme ses sermons, mises par écrit, par lui-même. Parce qu'il savait très bien que ses sermons étaient notés et diffusés. Et donc lui-même a voulu avoir, c'est un des premiers à avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui une politique éditoriale. Et donc il a voulu, par exemple, quand il commentait les psaumes, il avait commenté un certain nombre de psaumes, il lui manquait quelques psaumes, et bien, il a dit, je vais compléter la collection pour qu'on répande les 150 psaumes commentés par Augustin. Donc oui, c'est un des premiers en beaucoup de choses. Augustin, il a initié beaucoup de choses. Donc je vous dis, un garçon qui a beaucoup de mémoire, il n'est pas baptisé tout de suite. Son père était catéchumène. Donc son père était chrétien, croyant, mais n'avait pas voulu être baptisé. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on était souvent baptisé. Le catéchuménat durait longtemps d'abord. Et on était baptisé quand on se convertissait complètement, donc quand on changeait de vie. Et beaucoup de gens disaient, moi je ne suis pas encore prêt à changer de vie. Et même, il y avait la mode de se faire baptiser au moment de la mort, parce qu'au moins on disait « je suis baptisé, du coup je serai sauvé ». Parce que la pratique de la pénitence n'était pas encore bien au point, et on considérait parfois qu'un homme baptisé qui commettait un péché grave, on ne savait pas trop comment lui donner le pardon. C'était un peu vasouilleux. Donc, alors Augustin d'ailleurs interviendra là-dessus. Mais donc son père est catéchumène, sa mère est fervente. Et donc son père, à l'époque, dit « moi je sais que j'ai la foi, j'ai pas le courage d'être fervent, donc je ne demande pas le baptême, je suis un chrétien du seuil voilà. ». C'est intéressant d'ailleurs pour notre époque de voir cette catégorie de chrétiens qui disent « je suis pas encore prêt à tout », mais qui donc sont catéchumènes pendant des années. Et Augustin suit son père, et donc demeure dans le catéchuménat. Et il arrive à l'adolescence, alors l'adolescence commence tôt, hein, vers 10 ans, Il arrive à l'adolescence catéchumène, non baptisé. À l'adolescence, ses talents se révèlent, et en particulier ses talents de meneur. On a probablement un portrait de saint Augustin, un portrait réalisé par quelqu'un qui a pu le connaître, ou au moins connaître des gens qui l'ont connu. C'est un portrait qu'on a retrouvé à Rome, dans le palais du Latran, et où il est en toge romaine. Et quand on le voit, on voit qu'il a une tête de chef. Il a une tête, moi je dirais plus que de chef, il a une tête de meneur, de séducteur, au bon sens du terme. Vous voyez, c'est l'homme qu'on a envie de suivre. Il est beau, il a vraiment une belle tête, et surtout, on a envie de lui faire confiance. Et on voit ça dès son enfance. Manifestement, c'est le meneur de la bande de jeunes ados un peu chahuteurs de Tagaste. Et on le sait en particulier à propos de l'épisode qui rapporte du vol des poires. Alors, il rapporte ça dans les Confessions. Qu'est-ce que c'est que cet épisode du vol des poires ? Ben, il raconte qu'il allait s'amuser avec ses copains et qu'il voit un poirier et qu'il décide de cueillir les poires, non pas pour les manger, mais pour le plaisir de transgresser la règle, donc pour les jeter. Et dans les Confessions, il va revenir dessus en disant « Mais qu'est-ce que je faisais ? J'aimais faire le mal. » Alors, aujourd'hui, on lui dit « Attends, voler des poires. » Vous voyez, si moi j'ai un gamin qui vient me voir en me disant « Mon père, j'ai fait un gros péché, j'ai volé des poires. » Je vais lui dire « Bon, ben, écoute, essaye de ne pas recommencer, mais je ne vais pas m'inquiéter. » Vous voyez, objectivement, ce n'est pas grave. Mais Augustin, qui s'analyse lui-même, il dit « Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur d'adolescent ? J'aime, je me réjouis, je me délecte de faire quelque chose de mauvais. Et pourquoi je le fais ? Je le fais pour que les gamins qui sont autour de moi, qui sont mes copains, m'admirent, rient. » Et donc, vous voyez, il analyse très, très bien ce qui se passe dans son cœur. Alors, pas sur un sujet grave et important, sur un sujet anecdotique. Mais il voit qu'il aime être au centre, et ce qu'il aime, c'est être admiré, et être admiré pourquoi ? Parce qu'il fait quelque chose de mauvais. Et lui, il dit « j'ai fait quelque chose de grave ce jour-là, pas dans l'objet, mais subjectivement dans mon cœur ». Donc voilà, premier point, le vol des poires, ça montre bien qui est le bonhomme. Le vol des poires, il est tout jeune adolescent, il a 11-12 ans. À 17 ans, il prend une concubine. Donc il n'est pas en retard. Et très vite, il a un fils qui s'appellera Adéoda. On ne connaît pas le nom de la concubine, on ne le connaîtra jamais. Elle a disparu. Alors pourtant, il est resté longtemps avec elle, mais elle a disparu dans l'histoire. Mais donc à 17 ans, il vit avec une fille. Il s'installe avec elle. Sa mère n'est pas contente. Pas tellement parce qu'il a une concubine que parce que tout ça, ce n'est pas sérieux. Il fait ses études à Carthage. Et à Carthage, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il nous raconte le théâtre, passionné par le théâtre. Alors, il sort tout le temps. Les jeux du cirque, les chahuts. Et on a des récits historiques, c'est les chahuts des étudiants. Les étudiants régulièrement se rassemblaient et faisaient du chahut, c'est-à-dire... Il criait dans les rues, parfois il cassait un petit peu, juste pour le plaisir de casser. Donc, c'était pas des voyous, c'était pas des racailles, comme on dirait aujourd'hui. Augustin n'est pas excessif, mais c'est un jouisseur. Ce qu'il aime, c'est chercher le bonheur. Ça, je vous demande de le retenir, parce que c'est la ligne directrice de la vie d'Augustin, c'est jouir du bonheur. Ah, il aime le bonheur, il croque dans la vie, il cherche le bonheur. En 373, première rupture, donc il a 19 ans. Il va vite. Hein. Il a déjà un enfant, il a une concubine. Et en 373, 19 ans, il y a ce qu'on appelle sa première conversion, qui n'est pas une conversion au christianisme. On verra, il y a trois conversions de saint Augustin. La première... Ce n'est pas une conversion au christianisme, c'est une conversion, lui-même dira, à la sagesse. Il lit un livre de Cicéron qui s'appelle l'Hortensius, et ce livre, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans puisqu'on l'a perdu. On a quelques citations. Grosso modo, c'est un livre où Cicéron appelle à une forme de sagesse philosophique. Augustin, qui a déjà bien avancé dans ses études à 19 ans, s'intéresse à la philosophie, donne des cours de rhétorique, c'est-à-dire l'art de parler. Il lit Cicéron et il est frappé par la sagesse de Cicéron. Il se dit « j'ai envie de vivre comme un sage, comme un philosophe ». Et c'est une nouvelle période dans la vie d'Augustin qui va durer 9 ans, donc qui démarre en 373, presque 10 ans, qui ira jusqu'en 383. Pendant cette période, Augustin décide de vivre selon la sagesse philosophique. Donc vous voyez, il reste un jouisseur, mais désormais il veut jouir des choses intellectuelles. Avant, il a cherché les amis, le cirque, le chahut, les femmes, etc. Bon, ça l'a déçu. Maintenant, il cherche, il se dit, tentons l'intellectuel. Et ça devient un vrai intello, vraiment. Ça devient un grand lecteur. Pendant 9 ans, il va enseigner, d'abord à Carthage. Il s'ennuie un petit peu au bout d'un moment à Carthage, puisque c'est la province, et donc il veut partir à Rome. Il finit par partir à Rome, et il partira de Rome à Milan, puisque Milan est la capitale de l'Empire. Les empereurs, à cette époque, n'habitent plus à Rome, ils habitent à Milan. Et là, il a de l'ambition. Il veut viser haut, voire très haut. Il n'a pas de limite. Hein. Ce qu'il veut, c'est être dans les premiers professeurs de rhétorique de tout l'Empire. Donc, si je transcris à notre époque, imaginons qu'un garçon de 19 ans qui a fini ses études et qui enseigne à Pau, a les dents qui rayent le parquet, comme on dit, et qui se dit « je veux partir à Paris parce que je veux être professeur à la Sorbonne au minimum, voire professeur au Collège de France, voire ministre de l'Éducation ». Vous voyez, c'est un peu ça que vise Augustin. Il veut être avec les meilleurs, avec les plus grands. Il a de l'ambition pour lui-même. Il veut être sage, il veut être savant. Et il veut connaître les plus grands et les plus savants. Et donc là, c'est dans ces 9 ans, qui sont les 9 ans de l'ambition et de la culture, Augustin demeure croyant, mais il quitte l'Église catholique. Parce que dans sa recherche, il tombe sur un os qui est le mal. Pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? Et là, lui qui réfléchit se dit, ce Dieu créateur que j'ai appris à connaître par ma mère Monique, n'a pas pu créer le mal, puisqu'il est bon. Et donc, le mal ne peut pas venir de Dieu. Il faut donc trouver une origine au mal. Et donc il va adhérer à une forme de secte qu'on appelle le manichéisme. Le manichéisme, c'est une doctrine religieuse qui disait qu'il y avait deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Le dieu du bien a fait les choses intellectuelles et spirituelles, le dieu du mal a fait les choses matérielles. Tout ce qui est matériel, corporel, vient du dieu du mal. Et Augustin va croire vraiment cela pendant 9 ans. Alors il ne va pas beaucoup s'investir chez les manichéens, parce que chez les manichéens, les plus parfaits renonçaient à la sexualité, puisque le corps, ça vient du dieu du mal. Ils renonçaient au plaisir des repas, etc. Augustin n'est pas du tout prêt à ça. Mais c'est une conviction intellectuelle. Pour trouver une raison à la présence du mal dans le monde, il faut trouver un dieu du mal. Et il va le croire pendant 9 ans. C'est long, 9 ans. Ce n'est pas une passade pendant 1 an, 2 ans ou 6 mois. Pendant 9 ans, il est manichéen, donc de ses 19 ans, pour être plus simple, de ses 20 ans à ses 30 ans. Longue période, période de recherche où il est à la fois dévoré par l'ambition et la recherche de la vérité. Mais il demeure croyant. À l'époque, c'est rare d'être athée, vraiment. On a des croyances diverses, mais c'est rare d'être athée. 383, c'est une nouvelle étape dans la vie d'Augustin qui va préparer la suivante. Pendant 3 ans, là, Saint-Augustin est travaillé à l'intérieur par la recherche de la vérité, parce qu'il est persuadé que atteindre le bonheur, souvenez-vous que c'est d'abord un jouisseur. Atteindre le bonheur, c'est trouver la vérité. Alors là, il va rencontrer d'abord les disciples de Platon. Platon, philosophe de l'Antiquité grecque. Et ces disciples de Platon, qui sont des disciples décadents de Platon, ce qu'on appelle les néo-platoniciens, vont l'entraîner vers ce qu'on appelle le scepticisme, c'est-à-dire il doute de tout. Période difficile pour lui, hein, parce que c'est pas un intello qui s'amuse à penser. Quand il pense, ça met en cause sa vie. Donc, période compliquée où il doute de tout, voilà, il remet tout en cause. En 384, l'année suivante, il est nommé rhéteur officiel de la cour impériale. Le rhéteur officiel de la cour impériale, c'est celui qui est chargé de former à la rhétorique les cadres de l'Empire romain. En préparant, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme équivalent. Ça serait chez nous l'équivalent du directeur de l'ENA. Donc, il a 32 ans. Il est arrivé au sommet de la gloire humaine. Directeur de l'ENA, difficile de faire mieux. Il fait des discours devant l'empereur régulièrement. C'est lui, chaque fois qu'il y a une cérémonie officielle et qu'il y a un discours à faire, c'est Augustin qui fait le discours devant l'empereur. Il a 32 ans. Vous voyez, devant lui, c'est la gloire. Qu'est-ce qu'on veut ? Voilà. Il a atteint son but. Et pourtant, il est travaillé intérieurement. Il n'est pas heureux. Il cherche toujours le bonheur et il se dit « Je n'ai pas encore découvert la vérité qui me rendra heureux. » Alors, avec Platon, il découvre quand même une chose, c'est qu'il faut descendre en soi, en son intérieur, pour chercher la vérité. Donc ça, c'est une première découverte. Sa mère, Monique, qui est une drôle de femme, hein, c'est Sainte Monique, qui est une femme assez intrusive. C'est vraiment la mère méditerranéenne qui ne lâche pas son fils. Son fils a 32 ans et il est au sommet de sa gloire. Il est parti, il a traversé la Méditerranée. Il a traversé la Méditerranée sans elle. Hein. Il lui a menti, il lui a dit « Non, non, maman, je te promets, je ne partirai jamais dans la nuit. » Il a pris le bateau. Qu'est-ce qu'elle a fait sa mère ? Ben, quelques semaines après, elle prend le bateau, elle débarque et elle lui dit « Je suis venu tenir ta maison. » Alors, on verra sa mère d'ailleurs juste après renvoyer la concubine, qui est toujours là, en disant « Je m'occupe du fils, etc. » Sauf qu'Augustin, il prend une nouvelle concubine. Donc, ils ont une relation assez ambivalente. Ils s'aiment beaucoup, ils s'admirent beaucoup mutuellement. Sa mère prie et pleure tous les jours pour Augustin. Mais elle a quand même elle le lâche pas, hein. Elle lui colle au basque. Et donc, sa mère, à Milan, va en particulier écouter régulièrement les prédications de l'évêque de Milan, qui est Ambroise, Saint Ambroise. Et elle tire son fils en lui disant « Va écouter Ambroise, voyez, va écouter Ambroise. » Ce qui fait qu'Augustin, au bout d'un moment, se dit « Pourquoi pas ?» Enfin, alors il y a plusieurs péripéties, il n'ose pas le déranger, il va le voir, mais il n'ose pas le déranger parce qu'Ambroise était en train d'écrire, donc il n'ose pas. Et puis il l'écoute, il se cache dans la foule, il l'écoute. Enfin voilà, il y a plusieurs péripéties, mais à l'écoute d'Ambroise, Augustin découvre une chose, ce sont les Écritures. Pour Augustin, les Écritures, c'est méprisable. Parce que lui qui est un homme qui a la culture romaine, il trouve que Saint Paul écrit comme un pied. Alors c'est vrai, Saint Paul écrit mal. Tous ceux qui ont traduit Saint Paul savent que Saint Paul, il finit pas ses phrases. Donc on a le sujet, le verbe, on cherche le complément, il a déjà commencé une autre phrase. Enfin, c'est insupportable à traduire quand on fait du grec Saint Paul. C'est vraiment écrit, que c'est du charabia. Qu'il me pardonne, mais il ne savait pas écrire. Saint Augustin, qui aime les belles lettres, considérait que ce n'était pas intéressant. Un type qui écrit aussi mal, ça ne vaut pas qu'on s'intéresse à lui. Vous voyez, il est hyper cultivé. Il cite Cicéron tout le temps. Il cite l'Énéide, il cite tous les classiques romains. Et on lui sert un bouquin mal écrit en lui disant « La parole de Dieu est là-dedans ». Il dit « Non, ce n'est pas possible, vous foutez de moi ». Et en plus, il trouve ça, il trouve les récits très matérialistes. Il dit la création, cette histoire d'Adam, d'Ève, du péché originel. Il trouve ça un peu gros grain. Et puis, il entend Ambroise interpréter les Écritures, c'est-à-dire donner un sens spirituel aux Écritures. Là, il se dit, tiens, ça m'intéresse. C'est complètement nouveau pour lui qu'on puisse lire les Écritures en allant chercher derrière la matérialité des mots le sens spirituel. Et Ambroise lui ouvre le sens des Écritures. Alors, il y a une première bascule, il se met à chercher. Après, il y a deux éléments qui vont venir, c'est la beauté, et en particulier la beauté de la liturgie, parce que Ambroise a introduit à Milan le chant liturgique. Ambroise a composé des hymnes, et Augustin est bouleversé par la beauté du chant liturgique, qui correspond à, grosso modo, c'est un ancêtre du chant grégorien, c'est ce qu'on appelle le chant ambrosien. C'est un chant grégorien plus proche encore du chant romain que le chant grégorien qu'on a actuellement. C'est l'étape intermédiaire entre le chant romain et le chant grégorien. Donc il est bouleversé. Et puis troisième point, il va rencontrer des témoins. Alors deux témoins en particulier, Marius Victorinus. Marius Victorinus, c'était la star de l'époque. C'était un peu, je sais pas comment dire, l'intellectuel le plus connu, le plus médiatique de l'époque. Il avait sa statue sur le forum romain de son vivant. Donc c'était vraiment l'intellectuel le plus reconnu. Je me suis dit, qui on pourrait trouver aujourd'hui? Ça serait un mélange entre Michel Onfray, Raphaël Enthoven, vous voyez, tous ces intellectuels qu'on voit à la télé tout le temps. Donc, voilà, ces gens-là. Voilà. Et Marius Victorinus se convertit au catholicisme. Et là, Augustin se dit, si un type comme ça se convertit, c'est que cette religion doit quand même être intelligente. Premier point. Deuxième point, il rencontre des moines, puisque c'est le début de la grande expérience monastique, donc des moines qui étaient partis en Égypte pour vivre la vie de ce qu'on appelle la vie d'Antoine, hein, la vie d'Antoine du désert, le père de tous les moines, et qui revenaient, qui remontaient vers Trèves, et qui parlent de leur expérience, de leur expérience du désert. Et Augustin, ça le fascine. Il se dit, voilà des hommes qui ne vivent que pour la vérité. Donc, tout ça travaille. Il demeure un refus fondamental dans son cœur. C'est que Dieu puisse vouloir sauver le monde en s'incarnant. Pour lui, qui vient du manichéisme, c'est quand même l'horreur absolue. Si Dieu est Dieu, qu'il nous sauve par l'intellect, pas par la chair. Que Dieu se soit fait homme et qu'il soit mort sur une croix pour être le médiateur, c'est répugnant. Non, ça, c'est pas possible. Vous voyez, il y a un passage à faire qu'il n'arrive pas à faire. Et en 386, deuxième conversion d'Augustin, c'est la conversion de celle qu'on appelle le jardin, celle du jardin, celle de Milan. Il est d'un jour dans un jardin et il est en proie à une tentation de suicide, tellement il est malheureux. Et il entend un enfant qui chante dans un jardin à côté ou une maison à côté, et qui chante deux mots, qui chantonne, prend et lit, en latin, tolle legge, prend et lit. Et pourquoi ça l'a touché, on ne sait pas, mais il a eu une grâce, et il s'est dit, à travers cet enfant, Dieu me dit, prends les Écritures et lit les Écritures. Et donc il ouvre le livre des Écritures. J'allais dire, il ouvre sa Bible. Il ne faut pas imaginer qu'il avait une Bible reliée. Le livre n'existe pas. Hein. Donc il ouvre son rouleau et il tombe sur Romains 13, 13, qui est un verset assez curieux, où saint Paul dit, cessez les ripailles, les débauches, etc. Donc d'abord quelque chose de moral. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, Augustin a une grâce de conversion, il accepte profondément qu'il va changer de vie pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire pour le Verbe incarné. Le Verbe, comme platonicien, il était prêt à l'accepter. Le Verbe, c'est l'idée divine pour lui, c'est la lumière divine. Mais ce Verbe incarné. Et tout d'un coup, il accepte que Dieu, le Tout-Puissant, le Verbe, se soit fait homme. Et donc 386, c'est la véritable conversion d'Augustin. Il se convertit au christianisme, au Christ. Mais c'est pas fini, parce que on est reparti sur une nouvelle période de 386 à 391, période pendant laquelle Augustin, qu'est-ce qu'il fait ? Il rassemble ses meilleurs amis, il a renvoyé sa concubine, il garde son fils, Adéoda, et il retraverse la mer. Au passage, d'ailleurs, sa maman meurt à Ostie. Mais il traverse la mer, il s'installe à Cassis-Iacum, dans une sorte de... Alors c'est assez curieux, il faut imaginer des hommes cultivés qui se retirent ensemble pour chercher la vérité. Mais c'est un peu un monastère d'intellectuels, mais qui n'ont pas de règles. Alors, ils passent leur journée à faire de la philosophie, à lire les Écritures, à voir... J'allais dire, ils se gobergent, pardonnez-moi l'expression, mais ils se font plaisir entre eux à se dire « qu'est-ce que tu penses de ça ?» Voilà. Il faut imaginer peut-être... moi, quand je lis ça, je me souviens de ce que je vivais en classe préparatoire... où on passait des heures à avoir des discussions intéressantes, fines et tout, mais très tournées vers nous-mêmes. Vous voyez, ils se font plaisir à chercher la vérité. Et donc ça dure quand même longtemps, ça dure 5 ans. Cassis-Iacum, c'est cette étape intermédiaire où, avec ses amis, il continue à chercher la vérité, mais sans s'engager. Il n'y a pas de changement de vie personnelle. Il n'y a pas d'engagement personnel. On reste dans une conversion intellectuelle. Il a accepté le Christ, mais de manière intellectuelle. Sauf qu'en 391, sous un prétexte un peu fumeux, on l'invite à Hippone pour un voyage. L'évêque d'Hippone, qui s'appelle Valère, qui est âgé, l'invite à passer. Bon, il y va, il ne sait pas trop pourquoi, voilà, il y va. Et... pendant la messe, l'évêque d'Hippone le prend par surprise et lui dit « J'ai besoin d'une aide, d'un prêtre, pour prêcher, parce que je suis trop vieux, j'y arrive plus. » C'était osé, parce qu'à l'époque, celui qui prêche, c'est l'évêque, c'est pas le prêtre. Seul l'évêque prêche. Sauf qu'Augustin, tout le monde le connaissait. N'oubliez pas que c'est un grand personnage. Et donc, Valère Fino s'est dit « Si j'arrive à en faire un prêtre, et 2 ans après il en fait un évêque, son successeur, j'aurai mis à ma place comme évêque un des plus grands hommes du moment. » Et Augustin se retrouve ordonné prêtre, non pas contre sa volonté, mais malgré sa volonté, il ne l'a pas voulu. Lui, ce qu'il voulait, c'est être tranquille avec ses amis pour écrire des livres et rechercher, et voilà, c'est se faire plaisir intellectuellement. N'oubliez pas que c'est un jouisseur. Vous voyez, à Cassis-Iacum, c'est un jouisseur intellectuel. Et là, il se retrouve, 391, c'est donc sa troisième conversion, il se retrouve à devenir pasteur. Et c'est sa conversion définitive parce que le Seigneur vient le chercher et lui dit « Tu n'es pas là pour te faire plaisir, tu es là pour servir tes frères. » Et donc, il accepte de devenir le serviteur et le pasteur du peuple d'Hippone. Et Hippone, ce n'est pas la plus grande ville. Il aurait voulu être évêque, il aurait pu être évêque de Carthage, de Milan, de Rome, etc. Là, il s'est retrouvé évêque... c'est comme si c'était évêque à Pau, quoi. C'est bien, hein. Mais bon, on peut faire mieux. Voilà. Et donc, il faut... Il accepte cela vraiment. Il comprend que le Seigneur lui dit « Si tu veux me suivre, tu dois servir mon peuple. » Donc, troisième conversion, et cette fois, c'est la conversion vraiment de toute sa vie, parce qu'à travers sa vie pastorale, Augustin va découvrir vraiment ce que c'est que la vie chrétienne. Alors, c'est l'époque où il va écrire ses grands livres, comme le De Trinitate, le grand livre sur la Trinité. Il y a tous ces grands livres spirituels. C'est l'époque où il commente les 150 psaumes, où il y a tous ses sermons. Il va se lancer dans la défense de la révélation. Alors, en travaillant beaucoup sur l'Église, parce qu'à ce moment-là, il y a un schisme, les donatistes. C'est une histoire très compliquée, les donatistes, mais les donatistes voulaient une Église de pur. Ils ne voulaient pas d'évêques qui avaient pu, à une époque, avoir peur face aux barbares et qui avaient pu fuir ou donner les Écritures pour avoir la paix. Enfin, et donc, les donatistes voulaient une Église de pur. Et donc, ils considéraient que tous ceux qui n'étaient pas issus d'évêques qui avaient été parfaitement purs devaient être déposés. Et Augustin va lutter en disant l'Église, elle est mêlée de pécheurs et de saints. Et il va réfléchir sur le mystère de l'Église. Ça va être capital dans sa vie, il va trouver que c'est dans l'Église et par l'Église qu'il peut embrasser le Christ. C'est la grande découverte de sa vie, paraît 391, c'est en aimant mes frères que j'aime le Christ. Il va pousser cette idée-là plus loin encore, puisqu'il va, comme évêque, demander à tous ses prêtres de venir habiter avec lui autour de la cathédrale et de vivre comme vivent les moines, mais autour de la cathédrale, et de vivre la vie commune. Donc il va initier un nouveau genre de vie. C'est là qu'il écrit sa règle. On pense en 397, entre 397 et 400, il écrit sa règle pour que, la vie commune entre les clercs, donc entre les prêtres et les diacres et tous ceux qui servent à l'Église, c'est le moyen de trouver le Christ. Il dira, si tu vois la charité, tu vois Dieu. Parce que tu vois le Saint-Esprit, et si tu vois le Saint-Esprit, tu vois Dieu. Voilà, c'est pour lui, s'aimer entre frères, c'est rendre Dieu présent, c'est une voie de contemplation. Voir Dieu, je veux voir Dieu, c'est la volonté de contemplation de Dieu. Et il y a un enjeu contemplatif dans la vie commune et la vie de charité, c'est l'idée majeure qui va diriger son ecclésiologie et sa doctrine spirituelle. Donc ça, c'est vraiment le grand moment. En fait, saint Augustin va déployer ses talents complètement en renonçant à jouir de son côté tout seul d'une recherche de la vérité. Alors, parce qu'on lui demande d'être évêque, et être évêque, à l'époque, c'est être le chef aussi temporel de la communauté. Il y a des moments où il explose, où il dit « j'en ai marre de vous ». Il parle à son peuple. Il dit « j'en ai marre de vous ». Vous vous disputez tout le temps. Quand vous vous disputez, c'est moi qui dois trancher. Quand deux chrétiens se disputaient pour, je sais pas, une querelle de voisinage sur une clôture, on allait voir l'évêque, on faisait un procès, et l'évêque devait trancher le procès. Donc Saint-Augustin, il passait son temps à ça. Il se plaint. Il dit « mais je n'en peux plus de gérer vos affaires d'argent, de clôture, de calomnie, de machin. Il ne rêve que d'une chose, c'est d'être dans son bureau et d'écrire et de lire. Et il passe son temps à servir son peuple. » La fin de sa vie, 427-430, les trois dernières années, c'est des années de grand dépouillement, de grande humilité pour Augustin. Il va relire toutes ses œuvres, il va écrire ce qu'on appelle les révisions, et il va demander pardon pour toutes ses erreurs. Donc il rentre vraiment dans une période où il se prépare à mourir, à travers une grande humilité, et 430, les Vandales arrivent autour d'Hippone, assiègent la ville, et pendant le siège de la ville, juste avant qu'elle ne tombe et qu'elle soit prise par les Vandales, Augustin meurt. Donc apparemment, il meurt au moment de l'effondrement complet de l'Empire romain. Et de manière très curieuse, après sa mort, tous ses sermons, toutes ses œuvres se répandent partout. On voit, les spécialistes ont essayé de montrer comment. Il y a des réseaux chrétiens, notamment qui passent par l'Espagne, et qui répandent tous ces manuscrits, qui se répandent à une vitesse phénoménale. Ce qui fait qu'Augustin est l'homme le plus lu de tout l'Occident, encore aujourd'hui. Alors les œuvres complètes d'Augustin, ça fait deux étagères d'un mètre cinquante, donc ça fait à peu près 3 mètres linéaires. Alors c'est latin français, donc allez, disons un mètre cinquante linéaire. Voilà, si on met tout en livre, ça fait ça. Donc c'est une œuvre colossale et on en a perdu beaucoup parce que les sermons, on considère qu'on en a 20-25%. régulièrement, on retrouve des sermons d'Augustin au fond d'une bibliothèque, souvent sur des manuscrits qui ont été réutilisés. Vous savez, on réutilisait les manuscrits, donc maintenant on a des techniques pour voir ce qu'il y avait marqué en dessous, et on dit, il y avait un sermon d'Augustin, et on ne le connaît pas. On en a retrouvé, il y a 5-6 ans, on a retrouvé un sermon d'Augustin. Alors, quand on retrouve un sermon d'Augustin, c'est la fête dans le monde augustinien. Moi, je me souviens, j'ai passé ma thèse à la Sorbonne sur Saint-Augustin, à une époque où on a retrouvé une série de 7 sermons d'Augustin. Donc j'allais à l'époque travailler tous les jours à la bibliothèque augustinienne. Ce sont des messieurs qui sont très sérieux, des dames très sérieuses, qui passent leur vie à étudier. Ils étaient en état d'ébriété, littéralement, parce qu'on venait de retrouver 7 sermons d'Augustin. Donc c'est un des rares auteurs de l'Antiquité dont les œuvres augmentent régulièrement. Et on pense que, par exemple, au Mont Athos, dans la bibliothèque du Mont Athos, on pourrait trouver des sermons d'Augustin qui sont souvent attribués à d'autres. Alors, ils sont répertoriés comme, je sais pas, Saint Jean Chrysostome ou Saint Jérôme, et en fait, ils sont d'Augustin. Alors, on a des techniques pour retrouver. Alors, il me reste quelques minutes pour vous. Donc, voilà, j'ai tracé la vie d'Augustin. Donc, vous voyez, 3 conversions. Première conversion, c'est la conversion philosophique, la recherche de la sagesse. Deuxième conversion, c'est le Christ, médiateur, Christ. Dieu et homme, le médiateur. Troisième conversion, l'Église, servir mes frères pour embrasser le Christ. Ces 3 conversions font que la vie d'Augustin, c'est une grande conversion. Et on pourrait dire qu'il nous apprend ce que c'est que se convertir. Or, se convertir, c'est toute la vie chrétienne. Hein, c'est le début de l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que la conversion? Ce qu'Augustin nous montre, la conversion, ce n'est pas renoncer à son désir de bonheur, c'est l'approfondir. D'un bout à l'autre, Augustin est resté un jouisseur, mais il a appris à jouir des choses éternelles et réelles. Au début, c'est des choses matérielles, c'est le cirque, c'est le théâtre, c'est la débauche. Il s'ennuie. Bon, il laisse tomber. Les choses intellectuelles, c'est déjà mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Le Christ, c'est bien, mais il lui manque encore l'Église, qui est le Christ continué. Et là, enfin, il a trouvé le vrai bonheur. Mais le moteur de sa conversion, c'est toujours sa volonté de jouir du bonheur, qu'il n'a jamais lâché. Il répète sans cesse, « Si tu désires, tu pries. » Pour lui, le fond de l'être humain, c'est un désir qu'il y a en nous, qu'il appelle un poids. « Tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Ça veut dire qu'il y a dans mon cœur quelque chose qui fait que je ne suis pas en repos tant qu'il ne suit pas ce poids qui le conduit vers le Seigneur. Et l'homme n'est vraiment complet, pas seulement quand il est créé, pas seulement quand il est converti, mais il est formé, c'est-à-dire il a atteint le lieu de son repos, il a suivi son poids, et mon poids me conduit vers Dieu. Donc vous voyez, il y a en moi un désir de Dieu, un poids vers Dieu, qui est plus qu'une simple décision de ma part, qui fait partie de mon être. Et pour Augustin, c'est, comme on dit, c'est une réalité ontologique, c'est-à-dire qui fait partie de ma nature humaine. Je m'avance, pas de ma nature humaine, de ma nature humaine créée dans la grâce par Dieu. Parce qu'après, on pourrait distinguer. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un cadeau de Dieu. Mais l'homme n'est vraiment lui-même que quand il suit ce poids qui le conduit vers Dieu. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup insisté sur la grâce. Au XVIIe siècle, en France, il y a eu toute la controverse du jansénisme qui s'est appuyé sur saint Augustin et qui a fait une mauvaise lecture des écrits sur la grâce d'Augustin. Quand Augustin écrit sur la grâce, ce n'est pas pour diminuer l'homme. L'idée janséniste, c'est de dire... L'homme ne vaut rien, tout vient de Dieu, donc l'homme doit être écrasé et on doit tout attribuer à Dieu, parce que l'homme est marqué par le péché originel et on s'appuie sur Augustin. Et Augustin dit, mais oui, bien sûr. Mais donc l'homme est infiniment grand, puisque Dieu lui donne sa grâce. Quand Augustin parle de la grâce, c'est pas pour rabaisser l'homme, c'est pour nous dire ce qu'il a expérimenté dans sa vie qui est l'infinie grandeur de la grâce en lui, d'une grâce qui d'abord le tire vers Dieu, le convertit et finit par l'unir à Dieu. Donc vous voyez, c'est vraiment important de ne pas se dire « Augustin, c'est l'homme du pessimisme, du péché ». C'est absolument faux. En fait, Augustin, c'est un jouisseur qui n'a qu'une envie, c'est d'être heureux, et qui expérimente que Dieu a mis en lui la grâce pour aller justement au bonheur qui est Dieu lui-même.
Vous venez d'entendre les trois conversions de saint Augustin, une conférence du père Michel Leclerc. Il était invité dans le cadre de l'école de prière de la formation permanente du Béarn, enregistrement réalisé à Pau le 7 octobre 2025.